France Musique. France Musique. Grand large. Go West. Laurent Vallière.
Aujourd'hui, 7e épisode. Chicago, la musique pour adoucir les mœurs. Étuve l'été, sous le blizzard l'hiver. Il faut être courageux pour habiter Chicago. On la connaît, cette ville pionnière dans bien des domaines. Son métro aérien qui fait un tour, un loop, dans le centre-ville. Ses gratte-ciels à l'architecture insensée qu'on peut visiter en sorte de bateau-mouche. Le plus étonnant, c'est ce gratte-ciel qu'on appelle l'épi de maïs. Dans les bas étages, le garage de voitures à ciel ouvert, les voitures sont rangées en étoiles, et puis au-dessus, les étages avec appartements. Chicago, ville creusée à sa façon, on dira la petite New York, avec sa mafia, son jazz et sa prohibition dans les années 30.
Chicago, Illinois, is like a shiny toy. The very state is proud to state that it's pride and joy. The windy city sweeps you clean off your feet. Oh, its charm is complete. Oh, they're knocking your flat this way and that on every downtown street. Ah, the White Sox and the Cubs and all the sporting clubs make living here a pretty nifty ploy. Smack on the lake, this is a rare port. Someday they'll say, we'll have an airport. When they say, hey, I'm from Shy, they mean Chicago, Illinois. Chicago, Illinois is like a shiny toy. The very state is proud to think that it's pride and joy. The windy city sweeps it clean off your feet. Its charm is complete. Sporting clouds, they're living here, pretty nifty floor. Smack on the lake, this is your airport. Someday they'll say, we'll have an airport. When they say, hey, I'm from Shy, they mean Chicago.
Extrait de Victor Victoria Leslie Ann Warren, Chicago, Illinois. Victor Victoria, le film de Blake Edwards sur la musique de Henry Mancini qui se déroule à Paris dans les années 30 autour de Julianne Jouz, une chanteuse victime de la crise économique qui choisit de se transformer en un chanteur qui se déguise en femme pour connaître le succès. Mais on est aussi dans ce film à Chicago à travers un homme de la mafia qui vient à Paris, amateur de femmes et extrêmement troublé de se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme. Henry Mancini a repris le son du Chicago des années 30. Une ville qui sent le soufre. Première escale des musiciens noirs de la Nouvelle-Orléans qui avait remonté le Mississippi. Le jazz, le cuivre, le blues forment le fond musical de cette ville. Au début des années 30, durant la Prohibition, il y avait également un certain Al Capone, puissant parrain de la pègre qui régnait en maître, un agent fédéral déterminé et intègre, Elliot Ness, qui est dépêché sur place avec pour mission d'arrêter ses agissements illégaux. C'était aussi le pitch des Incorruptibles, le film de Brian De Palma. Ennio Morricone a composé la musique de ce film. Voici comment il dépeint musicalement Al Capone.
Thank you.
le piano bastringue, les cuivres qui ronflent, la musique d'Ennio Morricone pour le film de Brian De Palma, Les Incorruptibles. On y est, à Chicago, avec ses rues sombres, son jazz. Au début des années 20, de nombreux musiciens noirs arrivent de la Nouvelle-Orléans. Principale cause, la fermeture par décret de Storyville, le quartier des spectacles. Et puis, il y avait du travail à Chicago, dans les abattoirs, dans les usines de textiles. Parmi les musiciens, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong et King Oliver, un cornettiste qui arrive en 1918 avec son Creole Jazz Band, dont le second cornettiste est Louis Armstrong. Il grave dans la cire en 1923 les premiers enregistrements de jazz noir. Une formation qui illustrait parfaitement le style fondé sur l'improvisation collective du jazz traditionnel, où chaque musicien est libre d'enrichir la mélodie. Le jeu de Louis Armstrong, en particulier à la trompette, est révolutionnaire. Son introduction virtuose dans West End Blues demeure l'une des plus célèbres de l'histoire du jazz. Le West End Blues du King Oliver Orchestra avec Louis Armstrong. Pour ce cornettiste, Chicago est la première escale après la Nouvelle-Orléans et avant New York. Il arrive en 1922, est engagé comme second trompettiste par Joe Oliver dans son Creole Jazz Band. Chicago, dès lors, devient la Mecque du style New Orleans. Dans ce contexte bouillonnant, Armstrong enregistre ses premiers disques. Il travaille avec le batteur et chef d'orchestre Holly Powers avant d'être engagé l'année suivante dans l'un des big bands phares de New York, celui de Fletcher Anderson. Et puis il retourne à Chicago et enregistre pour la firme Hokie en 1925 la toute première séance du Hot Five en compagnie de Lil Hardin au piano, Johnny Dodds à la clarinette, Baby Dodds à la batterie et Kid Ory au trombone. En l'espace de quelques années, Armstrong devient le premier grand soliste de jazz et influence de nombreux musiciens blancs de Chicago. Les jazzmen blancs de l'école de Chicago devinrent les chefs de file de l'improvisation solo, une caractéristique qui établissait la distinction entre le jazz de Chicago et celui de la Nouvelle-Orléans. À Chicago, Armstrong joue au Savoy. Voici un enregistrement de 1927. Armstrong et ses Hot Seven, ils interprètent Chicago Breakdown de Jerry Roll Morton. Louis Armstrong et ses Hot Seven, un enregistrement de 1927, Chicago Breakdown de Jerry Roll Morton.
France Musique, Grand Large, Go West, Laurent Vallière.
Qu'est-ce que le son du jazz de Chicago ? Il se caractérise par une importance accrue des solos individuels, contrairement à l'improvisation collective au début du jazz à la Nouvelle-Orléans. Il se caractérise aussi par l'importance croissante du saxophone et une certaine retenue émotionnelle. Chicago va devenir la nouvelle capitale du jazz. Le style Dixieland s'y épanouit. La musique à la Nouvelle-Orléans continuait d'être fortement influencée par les marches et les fanfares portées par des rythmes à quatre temps. À Chicago, le style tire davantage des influences du blues, souligne les temps faibles de chaque mesure par des syncopes et voit donc l'apparition des solos. On peut retrouver aussi Jerry Roll Morton. En 1926, il a 36 ans, le vent en poupe, ce pianiste dandy, inventeur du jazz, joueur de billard virtuose, enregistre ses morceaux avec son orchestre, les Red Hot Peppers. Dr. Jazz, Jelly Roll Morton et ses Red Hot Peppers en 1926 à Chicago. Parallèlement à cette musique noire qui sentait le blues, la musique classique tisse sa toile à Chicago. On n'est pas à New York, on n'est pas à Boston, l'orchestre de Chicago est créé plus tardivement, mais il est dirigé par quelqu'un qui a une très forte personnalité et a exercé dans les deux villes, Boston et New York. Théodore Thomas, ce n'est pas un inconnu, c'est un chef d'orchestre allemand. Il dirige d'abord l'orchestre philharmonique de New York. Il crée son propre orchestre à New York. On lui propose de diriger le Boston Symphony Orchestra, mais il refuse parce que Chicago lui plaît. C'est à l'époque une ville de parcs à bestiaux, de chemins de fer, une nouvelle ville brute, une ville fondée en 1833, rebâtie après le grand incendie de 1871. Entre 1880 et 1890, sa population va doubler, atteindre 1 million d'habitants, dont 8 sur 10 sont des étrangers. Il y a un saloon pour 200 habitants, une rivière, Chicago, grise de pollution, une ville qui a grandi très rapidement, où les habitants avaient de grandes aspirations. Comme toujours, les immigrés allemands y avaient d'abord promu la musique classique. L'orchestre new-yorkais de Walter Domroch était venu en tournée en 1885 pour jouer pour la première fois Tannhäuser de Wagner, la Valkyrie. Et puis Charles Norman Fay, fils de pasteur, philanthrope, millionnaire, président de la compagnie de gaz de Chicago, vice-président de la compagnie de télégraphe de Chicago, écrit à Théodore Thomas pour lui proposer de créer un orchestre. Il écrit « En ce qui concerne l'argent, je peux constituer une société très rapidement ». Le concert inaugural de l'orchestre de Chicago a lieu le 17 octobre 1891 au Auditorium Theater. Au programme, la symphonie numéro 5 de Beethoven, encore et toujours, et le concerto numéro 1 pour piano de Tchaïkovski.
Thank you.
Le mouvement Allegro con fuoco du concerto numéro 1 en si bémol mineur de Tchaïkovski avec Béatrice Rana au piano et l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome dirigé par Antonio Pappano. Ce concerto au programme du premier concert de l'orchestre de Chicago. Théodore Thomas, le chef musical, prend son travail au sérieux. Pour lui, la musique doit être accessible et un antidote à la fois au crime et au socialisme. Je cite, « Sous sa direction très autoritaire, l'orchestre acquiert une virtuosité qui surprend même Richard Strauss lorsqu'il vient diriger ses propres œuvres en 1902. » À Chicago, Théodore Thomas place donc la barre haut et sa femme écrit « Monsieur Thomas est ici pour faire de Chicago un des principaux centres de la musique dans le monde ». Pourtant, et à son grand regret et celui de son mari, ce sont les concerts en plein air de l'orchestre plus populaire qui attirent les foules. Plus qu'à New York ou Boston, la lutte des classes inquiète l'élite de Chicago. Ferdinand Peck, qui a financé la salle auditorium, déclare « Ça sera un temple où pauvres et riches de toute classe sociale pourront se rencontrer sur un terrain commun et être élevés par le pouvoir de la musique ». Il ajoute « N'oublions pas les ouvriers qui ont construit ce bâtiment sans précédent ». L'orchestre de Chicago donne des concerts pour les ouvriers avec des prix bas de 10 cents, des concerts populaires en plein air qui se jouent devant 100 000 personnes. On joue Johann Strauss Jr., Tchaïkovski et Rimsky-Korsakov.
Thank you.
Scheherazade de Nicolas Rimsky-Korsakov par l'Orchestre symphonique de Chicago dirigé par Seiji Ozawa. L'Orchestre de Chicago ne connaît pendant plus d'un demi-siècle que deux directeurs musicaux, Théodore Thomas, qui disparaît en 1905, et puis celui dont il est le mentor, Frédéric Stock, allemand, prédisposé à la musique de son pays, et qui est en fait un orchestre extrêmement polyvalent.
France Musique, Grand Large, Go West, Laurent Vallière.
À côté de la musique classique, du jazz, il y a le blues de Chicago. Une forme de blues particulière développée par l'ajout d'instruments comme la guitare électrique, la guitare basse et l'harmonica. L'essor du Chicago Blues est principalement dû à l'exode rural lors de la Grande Dépression dans les années 30 des ouvriers noirs et pauvres du sud des États-Unis vers les villes industrialisées du nord. Au début, le Chicago Blues s'est forgé dans les rues, les clubs de Chicago, mais très vite, il a fortement gagné en popularité jusqu'à toucher l'ensemble des États-Unis, puis l'Europe et particulièrement le Royaume-Uni. Un de ses maîtres est Muddy Waters.
Yeah, I know it sounds like my little honeybee. But now she's coming back home to me.
Muddy Waters, After the Rain. Un premier incubateur du Chicago Blues, c'était le marché en plein air de Maxwell Street. L'un des plus grands marchés en plein air du pays. Les résidents de la communauté noire le fréquentaient pour acheter et vendre à peu près n'importe quoi. Un endroit naturel pour que les musiciens de blues se produisent, gagnent des pourboires et jouent avec d'autres musiciens. Une rue présentée dans le film de 1980 The Blues Brothers est décrite comme une communauté afro-américaine florissante. Sweet Home Chicago, les Blues Brothers. On ne peut quitter cette ville sans passer par le musée d'art moderne. On en trouve des choses très étranges dans ce musée. Il est juste en face de la géante sculpture, le haricot de Anish Kapoor, revêtu de matière réfléchissante. Et dans ce musée est exposée une œuvre de Georges Seurat, un dimanche après-midi sur l'île de la Jatte. Cette peinture qui a inspiré à Stephen Sondheim sa comédie musicale impressionniste sur le statut de l'artiste, Sunday in the Park with George.
Mademoiselles, you and me, pal, second bottle, ah, she looks for me. Bonnet flapping, yapping, roof, chicken, pastry. Yes, she looks for me. Good. Let her look for me to tell me why she left me, as I always knew she would. I had thought she understood. They have never understood, and no reason that they should. But if anybody could, finishing the hat, how you have to finish the hat, how you watch the rest of the world from a window while you finish the hat. Mapping out a sky, what you feel like planning a sky, what you feel when voices that come through the window go until they distance and die, until there's nothing but sky, and how you're always turning back too late from the grass or the stick or the dog or the light, how the kind of woman willing to wait, not the kind that you want to find waiting to return you to the night. Dizzy from the height, coming from the hat, studying the hat, entering the world of the hat, reaching through the world of the hat like a window, back to this one from that, studying a face, stepping back to look at a face. Leaves a little space in the way, like a window, but to see, it's the only way to see. And when the woman that you wanted goes, you can say to yourself, well, I give what I give. But the woman who won't wait for you knows that however you live, there's a part of you always standing by. Mapping out the sky, finishing a hat, starting on a hat, finishing a hat. Look, I made a hat. Where there never was a hat.
Mandy Patinkin, Finishing the Hat, extrait de Sunday in the Park with George, composé par Stephen Sondheim. Demain, on prend la direction un peu plus au nord de la ville du Prince, Minneapolis. Merci à Clara Nouvelle qui m'a aidé à préparer cette émission, à Alice Escriou pour le site, au mixage d'Ofar Guérid, à la réalisation. Céline Parfenoff, vous pouvez podcaster cet épisode et toute la série sur l'appli Radio France et les plateformes de musique en ligne. Quant à la programmation musicale, vous la retrouverez sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.